Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Two Step. Aujourd'hui, pour un nouvel épisode de Step Story, je suis avec Charles Thomas, CEO fondateur de Comet. Salut Charles.
Salut Bastien.
Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour ce podcast. Je suis ravi d'être avec toi.
Mais écoute, moi aussi, merci à toi pour l'invitation.
Et avec grand plaisir. Alors, avant qu'on commence, avant que tu te présentes, est-ce que tu peux me synthétiser, me résumer Comet, donc la boîte de laquelle on va parler, là en deux phrases, en 10 secondes?
Bah écoute, bien sûr. Alors, Comet, ce qu'on fait, c'est assez simple. On connecte instantanément, donc très rapidement, les meilleurs freelances de la tech avec des grands groupes.
Ok, de la tech et de la data aux grands groupes.
Exactement. Ce qu'on appelle la tech, en fait, c'est 4 gros métiers. La partie IT, très informatique, le développement. La partie data. La partie produit, donc ce qu'on appelle en anglais le product management. Et enfin, le design. En fait, on est complet autour de la création d'une application web ou mobile, quoi.
Ok, bah écoute, super clair. Alors, avant qu'on rentre un petit peu dans le détail justement de l'activité, moi, je vais te laisser te présenter qui t'es, ton profil, tes expériences, que tu as fait avant Comet ou pas, comment tu en es arrivé à l'entrepreneuriat. Je vais te laisser te présenter.
Ok, bah écoute, très cool. Donc moi, je suis donc Charles de mon prénom et Thomas, mon nom de famille. Je suis un Lillois de base. Je suis né à Lille, j'ai fait toute ma scolarité là-bas. Ma famille est encore là-bas. Je suis parti après mon bac S à 18 ans. Je suis parti à Paris en prépa intégrée dans une école d'ingé aéronautique, donc, parce que je suis un gros fan d'avion à la base. Donc, je m'étais dit, bah, naturellement, je vais bosser là-dedans. Et j'ai fait donc, mon école. En fait, je me suis rendu compte que j'adore les avions, mais je n'allais pas forcément en faire mon métier parce qu'on en reparlera. Mais j'ai fait des stages chez Safran, des stages chez Airbus 2 fois 6 mois. Et je me suis rendu compte que, en fait, tu ne peux pas trop avoir d'impact. En gros, que tu arrives à 7h du mat ou à 10h, que tu partes à 17 ou à 22, bah, je ne changeais pas trop la diff en termes d'impact sur le produit fini. Donc, en gros, après mon école, en fait, j'ai fait un double diplôme ingénierie et commerce. Et j'ai travaillé, en gros, comme commercial pendant 3 ans dans ce qu'on appelle maintenant une ESN, ce qu'on appelait avant une SS2I, qui est une société de services informatiques. Et ça, c'était entre 2013 et 2016. Et pour faire simple, on a monté Comet mi-2016. Le pourquoi l'entrepreneuriat, en fait, à l'école, moi, c'est un truc qui m'a toujours trop chauffé. À l'école, on a monté 2 petites boîtes avec des potes, d'ailleurs avec Valentin, qui est l'un des cofondateurs de Comet. Et en fait, c'était 2 fails parce que on était, je pense, pas prêts finalement. Mais en fait, je vois un peu ça comme un jeu vidéo. C'est pas un jeu dans le sens où c'est sérieux, mais j'ai toujours assez kiffé les jeux vidéo, notamment les jeux où tu as un vrai sentiment de progression, où plus tu te connectes, bah, plus tu avances, plus tu deviens fort et plus ton personnage, en gros, devient épais. Et en fait, l'entrepreneuriat, je retrouve la même drogue, entre guillemets, les mêmes,
sensations.
Les mêmes hormones, quoi. Les mêmes sensations, exactement. C'est que, bah, en fait, plus tu vas, quand tu entreprends, plus tu vas te connecter à ta boîte, plus tu vas bosser dessus, plus tu vas allouer du temps, de l'énergie, de la passion, en fait, plus elle va progresser. Et j'adore ce sentiment de créer quelque chose, de progression aussi. Donc, on s'est un peu essayé en école et puis on s'est lancé dans le grand bain avec Comet, qui est notre première boîte, quoi.
Ok, donc quelques petits trails. Donc, tu m'as parlé de Valentin. On va avoir l'occasion, bien sûr, de parler de l'équipe de Comet bien ouais. Après. Donc, quelques petits trails avant de mettre vraiment le pied à l'étrier. Présente-moi ouais. Maintenant Comet. Pourquoi Comet? Quel est le problème de fond, le pain que vous aviez rencontré? Et avant que je te pose la question fatidique de comment vous êtes lancé la première fois, dis-moi un peu pourquoi Comet?
Alors écoute, en fait, le problème qu'on tacle, il est assez simple. Je pense que tout le monde le comprend. C'est qu'aujourd'hui, en 2020, et c'était vrai aussi en 2016, et ça sera vrai aussi en 2030, c'est que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou quel que soit leur business, elles ont besoin de digital. Alors, on appelle de digital, de tech, de data, on met les mots qu'on veut, mais elles ont besoin finalement soit de se transformer, soit en fait, dès le premier jour, d'être une boîte très produit, très online, très digital. Donc, tout le monde cherche des talents. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que ces talents, de plus en plus, ils veulent travailler pour eux-mêmes. Tu as un vrai changement de paradigme face au travail. C'est que aujourd'hui, outre la sécurité, outre le fait d'avoir un job, les gens veulent vraiment s'accomplir et s'épanouir dans leur job. Ils veulent trouver du sens, ils veulent être libres aussi sûrement. Et donc, en fait, ce changement de paradigme face au travail fait que tu as un max de talents qui passent indépendants. Et donc, nous, en fait, le problème qu'on tacle, c'est de se dire, toutes les entreprises cherchent des talents dans la tech, dans la data, dans le digital. Ces talents veulent travailler en tant que freelance et on considère que le marché n'était pas prêt pour ce nouveau paradigme. Et parce que, en fait, c'est un marché, notamment en France, qui a toujours été, d'une part, manuel, toujours été drivé par ce qu'on appelle les SS2I, les sociétés de service. Et donc, on s'est dit, mais en fait, si demain, tu as une nébuleuse d'indépendants qu'il faut connecter avec une nébuleuse de clients, ça ne sert à rien de mettre des SS2I au milieu, mais autant le faire avec la technologie, quoi.
Ok, et pourquoi vous, dans votre proposition, vous êtes spécialisé dans la tech? Pourquoi que la tech? Parce qu'on connaît plein, plein, plein d'autres services qui viennent proposer aux entreprises des freelances, mais vous, vous êtes vraiment
Ouais.
spécialisé sur la tech. Pourquoi?
En fait, quand on s'est lancé, en tout cas, quand on a eu l'idée au printemps, en fait, on a parlé de ça au printemps et été 2016 avec Joseph et Valentin, qui, encore une fois, sont des super potes depuis 10 ans. On s'est connus en prépa intégrée, on a fait l'école ensemble. Et en fait, on a quand même regardé un peu ce qu'ils faisaient, tu vois, à l'échelle mondiale. Et on a tout de suite regardé Upwork, qui est le géant américain du freelancing, qui est un pur généraliste. Et en fait, on a regardé Upwork, on a regardé aussi Malte, qui s'appelait à l'époque Upwork. Et en fait, on s'est dit, OK, on va discuter avec les freelances qui sont inscrits sur ces plateformes et on va discuter avec les clients. Et grosso modo, en fait, on s'est rendu compte que ces plateformes, bah en fait, elles déçoivent les deux côtés. Alors, elles ont des bons côtés, bien sûr, mais elles ont aussi des côtés déceptifs. Je te le fais très vite, c'est que pour les freelances, en fait, il y a un sentiment un peu à la Google, c'est que tu t'inscris comme freelance sur ces plateformes. Et en fait, tu vas être page 134, tu ne sais pas trop comment tu fais pour être page 1, tu n'es jamais vraiment appelé, tu n'as pas trop de notion de communauté. Et puis, on mélange du développeur avec de la compta, avec du sales, avec du marketing. Donc, il n'y a pas vraiment d'identité. Et en face, pour les clients, ce qui était vachement barbant, c'est que ces plateformes de freelance et les premières plateformes de freelance, elles ont eu une approche qu'on appelle en anglais d'open marketplace, donc de place de marché ouverte. C'est un peu comme un job board. Ça veut dire que si toi, Bastien, là, tu cherches un développeur, tu vas sur ces plateformes, tu tapes développeur Paris, tu vas avoir 7200 résultats et c'est à toi de devoir tout screener, appeler tout le monde, voir qui est dispo, voir qui est bon, voir qui va correspondre à ta mission et tu vas prendre 3 semaines. Alors nous, on s'est dit, en fait, il faut qu'on tue le catalogue, il faut qu'on arrête d'être un job board, il faut que les plateformes de freelance, elles arrêtent de faire du listing. Et donc, en fait, on s'est dit, il faut qu'on essaye de faire un peu à la Uber. On n'aime pas trop Uber dans la culture qu'ils ont et l'irrespect parfois qu'ils peuvent avoir envers leurs chauffeurs, mais ils ont une approche intelligente, ce qu'on appelle en anglais les managed marketplace, c'est que tu n'as pas de catalogue sur Uber. En fait, tu arrives, tu as besoin de te déplacer du point A au point B et Uber va te matcher avec le bon chauffeur, la bonne course. Et donc, nous, on s'est dit, bah, ça serait génial d'avoir cette expérience-là et qu'on puisse donner aux clients le fait que, OK, tes clients, tu cherches quelqu'un, et ben, tu appuies sur un bouton, il n'y a pas de liste, il y a une solution. Il y a le bon freelance ou la bonne freelance qui t'est proposée. Et puis, en tant qu'indépendant, là aussi, tu ne te retrouves pas dans une liste interminable, mais tu te mets sur le produit en mode, les gars, je suis dispo, je cherche une mission. Bah, Comet t'apporte dans la seconde la mission qui correspond parfaitement à ce que tu sais faire et à ce que tu veux faire.
Alors,
Et en
hyper
fait,
bonne. Ouais, vas-y, excuse-moi, vas-y.
juste pour te donner à la fin, en fait, pour faire ça, si tu veux faire du matching, il faut que tu sois spécialisé, il faut que tu sois verticalisé, il faut que tu puisses créer une vraie communauté et que tu puisses justement réduire entre guillemets ton périmètre d'intervention pour être bien spécialisé, bien lisse. Et donc, on a décidé d'être spécialisé en tech et en data.
Ok, c'est une hyper bonne transition parce que tout ça, toutes ces améliorations par rapport aux plateformes que tu as citées précédemment, on va en parler juste après, tu vois.
Ok,
Pourquoi
parfait.
un freelance
Trop
doit
bien.
s'inscrire sur Comet et pas sur les autres? Quels sont les avantages pour les entreprises à chercher son freelance sur Comet? Et tout ça, on va en parler juste après. Mais si tu le veux bien, moi j'ai envie, avec les quelques
Ouais.
questions que je vais te poser rapidement, qu'on se mette un peu à ta place. Donc si j'ai bien compris, c'est fondé en 2016, Comet.
Ouais,
Voilà,
ouais.
moi j'ai envie qu'on se remette un peu à ta place de quand tu as lancé Comet, qui a été la première forme de Comet. Tu peux me parler du site, tu peux me parler de ta cible, un peu de tout, et surtout comment vous êtes fait connaître, quels ont été vos premiers leviers quand tu lances une plateforme de matching entre freelance, en plus de ça spécialisé, et je sais pas, au début c'était encore les grands groupes. Voilà, on a envie un peu de se mettre à ta place.
OK. Un peu genre
Exactement.
retour vers 2016. Écoute, alors en fait, donc on quitte notre job à l'été 2016. En fait, en juin 2016, on boit des coups un soir. Et en fait, moi, je n'étais pas du tout heureux dans mon job. Enfin, on gagnait énormément de pognon parce que la SS2I, tu te fais pas mal de thunes. Mais en gros, tu vois, je n'étais pas très heureux. Tu n'as pas trop de sens. Enfin, c'était assez creux. Et en fait, Valentin partageait ça. Il bossait aussi en SS2I. Et Joe bossait dans une industrie différente. Il bossait dans l'industrie, d'ailleurs, aéronautique. Donc, tous les trois, on était un peu pas tristes, mais pas très heureux au taf. Et donc, en fait, on se dit, OK, les gars, venez, on quitte tout ça et puis on prend notre vie en main et on monte une boîte. C'est ce qu'on fait sur l'été 2016. Bon, par contre, tu vois, à ce moment-là, on connaît que dalle, ni au digital, ni au produit, ni à la start-up,
Et
ni à
vous aviez quel âge tous les
l'entrepreneuriat.
trois?
On avait à ce moment-là 25 ans.
Ok.
En fait, on est nés tous les trois en 91, donc on avait 25 ans. On avait bossé, tu vois, 2-3 ans après nos études, mais on connaissait que dalle et on n'avait surtout pas de thunes. Parce que, bon, même si on avait des salaires sympas avec Val en SS2I, bon, on claquait un peu tout ce qu'on gagnait. Et donc, en fait, on a monté Comet à l'époque sans vraiment de compétences. On a mis 1000 euros à trois, donc on a mis 300 euros chacun, grosso modo. Et on avait, tu vois, pas d'outils, pas d'équipe. Et en fait, ce qu'on avait simplement, c'est vraiment une envie folle, en fait, d'être libre de notre agenda, d'être un peu notre propre patron. Avant même de parler vraiment de la mission de Comet, etc., c'était plus personnel en se disant, on a envie de vivre cette aventure entrepreneuriale.
Le moteur, il était perso, quoi. C'était d'avoir un job qui a du sens, en fait.
Ouais, exactement. D'avoir un job qui a du sens, d'avoir une indépendance financière, une liberté aussi dans son agenda. Et puis, le fait vraiment de, tu vois, pouvoir, en gros, être heureux grâce au travail. Si tu as juste ce travail, bien évidemment que tu ne peux pas être heureux. Mais si tu as une super famille, si tu as une super santé, si tu as tout ce que tu veux, mais qu'au travail, tu te fais trop chier, malheureusement, tu ne peux pas te sentir bien. Et donc, nous, on s'est dit, bon, bah, en fait, on a sur plusieurs cases, la santé, ça va, la famille, ça va, etc. Maintenant, sur le boulot, on n'est pas très heureux. Donc, on va faire en sorte que grâce au boulot, en fait, on soit là aussi un peu plus accompli. Donc, c'est plus perso. Et en fait, on a eu franchement, donc on se lance sans rien, avec pas beaucoup de thunes, pas beaucoup de compétences, pas beaucoup d'expérience. Par contre, une véritable envie. Et ça, il y a une boîte qui nous a énormément aidé, en fait, dès le mois de septembre 2016, quand on se lance officiellement. Parce que l'été, on négocie un peu nos départs. On est rentré chez The Family, que tu vas connaître,
Bien sûr.
j'imagine. Et donc, on est rentré chez The Family en septembre. On a rencontré Miguel de Fontenay, qui est l'un des partenaires, Balthazar de Laverne, qui est aussi un des directeurs. Enfin, bref, ensuite Alice, Oussama, Nicolas. Et en fait, on a adoré. Ils ont été incroyables dès le début. Ils nous ont vachement, vachement aidés. Ils nous ont inculqué, ben, en fait, des premiers mindsets. Ils nous ont inculqué aussi des premières compétences. Ils nous ont recommandé des articles, des bouquins, des vidéos, etc. Et en fait, on s'est nourri de tout ça pendant, entre, je dirais, septembre et décembre. Moi, je m'endormais devant coup d'État, je me réveillais, j'écoutais des podcasts en prenant mon petit déj. Enfin, on était un peu tarés pendant 4 mois. On vivait ensemble, en fait, tous les trois fondateurs. Et en fait, donc là, la première forme de Comet, bah, on a fait un peu la méthode classique en startup, entre guillemets, mais on a fait une première landing page, donc une petite page toute simple qui expliquait un peu ce qu'on voulait faire. On a contacté des clients, plutôt des grands groupes, sur LinkedIn en disant, voilà ce qu'on fait, allez voir le site, inscrivez-vous si vous êtes intéressé. Pareil avec des freelances. Ça, on l'a fait à la main, puis on a un petit peu automatisé avec des campagnes sur LinkedIn, des campagnes d'email. Puis on a fait en 2017, ça c'est grosso modo 2016, on fait une petite landing page et on commence à faire ce qu'on appelle de la recherche utilisateur. Donc on parle avec plus d'une centaine de clients et plus d'une centaine de freelances en 4 mois pour bien comprendre en fait comment on doit bâtir le produit. Et en 2017, c'est là où on crée notre prototype, ce qu'on appelle en anglais le MVP. Et donc en fait, on crée notre prototype sur une application très cool que je recommande franchement à tout le monde, qui s'appelle Bubble. C'est des Français qui ont monté ça. Ils sont basés à San Francisco. C'est bubble.is, je crois, ou io maintenant. Et en fait, c'est une application qui te permet de créer une application mobile ou une application web sans une ligne de code. Et donc, c'était parfait pour nous en 2017. Et on a créé le prototype comme ça, juste derrière, quoi.
Surtout qu'en 2017, il devait même pas avoir la même forme qu'il a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est encore mieux.
Ah ouais, franchement, aujourd'hui, moi là, j'ai retouché un petit peu à Bubble. Bah, en fait, pour être honnête, en confinement, bon, bah, en fait, on s'emmerde un peu tous en dehors du taf. Donc, même si j'ai la chance d'être avec des gens que j'adore, je suis confiné avec eux, j'ai quand même du temps. Et donc, en fait, le soir, le week-end, bah, je touche un peu à plein de trucs et je fais des petites formations de design et tout. Et justement, je suis revenu sur Bubble parce que, et je trouve ça mais hallucinant. En 2017, c'était déjà très cool. Aujourd'hui, allez sur Bubble, vous pouvez créer. En fait, si vous avez une idée, la grande frustration de la plupart des fondateurs qui ne sont pas tech, c'est qu'ils ont plein d'idées, ils ont plein d'envies, mais ils ne savent pas ou elles ne savent pas vraiment le mettre concrètement en ligne. Bubble, en fait, ça permet de réduire la distance entre l'idée et la réalisation. Et donc, ouais, c'est vraiment un produit exceptionnel.
Babel, ça caractérise la compétence dev qui manque dans votre équipe, en fait. Ça rend ça possible.
Ouais, en fait, Bubble, c'est un peu notre CTO, tu vois. Avant qu'on y reviendra, mais on a eu la chance de ouf, c'est que on a en 2017, à l'été 2017, donc un an après la création officielle, on a rencontré Arnaud qui est devenu notre cofondateur aussi et CTO. On lui a filé d'ailleurs le même nombre de parts que nous, comme ça on était tous les quatre pareils. Mais avant ça, en fait, notre CTO, c'était Bubble, quoi.
Ok, donc pour résumer un petit peu ce qui vous a mis le pied à l'étrier entrepreneuriat à l'époque, et comme beaucoup, beaucoup de monde, dont moi en partie, c'est The Family, donc qui est un peu la Bible de l'entrepreneuriat, et aussi donc à la fois dans le mindset et surtout dans le réseau, si tu veux, parce qu'il faut toujours un
Ouais.
minimum et c'est toujours beaucoup mieux, c'est un vrai
C'est
avantage.
clair.
Et donc pour un peu pour un peu toucher votre marché, il y a eu de l'automatisation mail, il y a eu du LinkedIn, il y a eu beaucoup de terrain. Alors tu m'as dit que du terrain, je sais pas, mais au moins tu as parlé avec ta cible, en fait, directement les freelances. Donc
Ouais.
tout ça a pris quoi? Ça a pris 6 mois, 1 an à faire beaucoup d'émulsions et à donner ensuite en simultané, en parallèle, la première appli web, donc avec Bubble. Et quel est, si tu veux, le delta entre ce que vous aviez pondu avec Web à l'époque et le Comet d'aujourd'hui?
Bah, en fait, franchement, y a trois grandes dimensions dans le Delta. C'est que déjà, aujourd'hui, on en sait beaucoup, beaucoup plus qu'à l'époque. Donc, tu vois, nos flows, l'expérience utilisateur, on a beaucoup simplifié et puis on s'est concentré sur les vraies attentes de nos users. Donc, aujourd'hui, sans parler de la tech, sans parler je dirais, de la tuyauterie, aujourd'hui, notre produit est beaucoup, beaucoup mieux pensé qu'au début. En même temps, le deuxième point, c'est que bah, grâce à Arnaud, qui est l'un de nos cofondateurs et le CTO, il a créé une équipe tech magnifique et donc aujourd'hui le produit est beaucoup plus robuste. C'est que aujourd'hui tout a été développé et codé en interne, donc on est capable, tu vois, de faire x100 sur notre chiffre d'affaires avec le produit. Ce qui est plus difficile avec Bubble, même si c'est possible, mais Bubble en fait est génial pour je dirais, les 12 premiers mois pour commencer un peu à itérer très rapidement pour pouvoir casser, refaire, etc. Après, si tu veux passer à l'échelle, tu as besoin d'un produit qui, en termes de, enfin, sous le capot, est très robuste. Donc ça, on l'a et on ne l'avait pas avant. Et puis en dernier, je dirais que c'est plus la partie là aussi expérience, mais plus le design. À l'époque, on copiait des morceaux de design à droite à gauche, on s'est inspiré de plein, plein de produits qu'on aimait bien, mais c'était un peu un Frankenstein en termes, je dirais, d'identité graphique, d'UI, d'interface. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Olivier, qui est le patron du produit chez nous, qui a fait un super boulot. Donc, en fait, on a une expérience qui est consistante, qui est beaucoup plus agréable, quoi.
Donc, pour résumer, pour scaler, il faut avoir la compétence en interne pour vraiment être
Ouais.
capable de réagir en live, si tu veux, avec la demande que tu as en face, et vraiment construire une identité, que ce soit UI/UX, sur un produit et plus du tout avoir un truc, comme tu l'as très bien dit, Frankenstein. Alors, moi, je voudrais te
Ouais.
demander, donc, on va aborder le premier un petit peu gros sujet. Donc, avant cette levée de 2 millions que tu vas avoir l'occasion de me parler, quand c'était, quel sens ça avait eu pour vous, quelles ont été votre première traction par rapport aux freelances, mais surtout aux entreprises. Comment ça s'est fait, première année, quels ont été un peu les chiffres, les KPI que vous aviez eus pour envisager une levée, et pourquoi une levée, en fait, pour aller encore plus vite, on l'imagine, mais explique-moi un peu tout ça.
Ok, bah écoute, on a commencé à faire du chiffre d'affaires très tôt. En fait, tu vois, on a même fait du chiffre d'affaires avant que la boîte soit créée officiellement. Parce que Valentin, l'un de nos cofondateurs, est très très chaud en business. Et en fait, tu vois, pour matcher un freelance avec un client, en fait, tu peux le faire à la mano. Tu peux commencer. En fait, le premier MVP, c'est l'humain et tu peux très bien le faire toi à la main. Donc en fait, on a commencé à faire un peu de business dès septembre 2016. Où Valentin, il est, tu vois, en fait, comme on a bossé en SS2I avant, on avait des clients. On connaissait des clients, on connaissait des DSI, donc des directeurs de l'informatique, on connaissait des patrons du digital, on connaissait des patrons de la data. Et donc, en fait, bah, Valentin a rappelé un de ses clients, il nous a filé une mission en disant, je cherche tel freelance, montrez-moi ce que vous êtes capable. Et puis, on a trouvé un super freelance et ça, on l'a fait à la main. Donc, on a eu du CA dès le premier jour de la boîte, mais un peu avant. Parce que quand on a signé ce contrat-là, il nous a dit, bah, OK, en fait, il faut qu'on contractualise. Et nous, on n'avait pas de cabis, on n'avait même pas déposé les statuts. Donc, on a dû se tracer. Mais après, tu vois, en gros, on était trois. Et moi, je trouve que pour fonder une boîte, j'adore le chiffre 3. Je trouve qu'être solo founder, moi j'ai énormément d'admiration pour les gens qui montent une boîte tout seul parce que je trouve qu'il faut être vachement courageux, mais en même temps, enfin, ça se respecte énormément, donc c'est aussi très bien. Mais moi j'aime trop le chiffre 3 et pour monter une marketplace, C'est génial parce que grosso modo, Marketplace, tu as deux côtés. L'un, c'est les clients, l'autre, c'est les freelances. Et puis au milieu, tu as une sorte de moteur qui doit faire le job. Et donc, en fait, Valentin, il s'occupait de tous les freelancers. Moi, je m'occupais de tous les clients. Et puis au milieu, Joseph s'occupait de faire le prototype. Donc, en gros, d'être un peu le moteur au milieu. Et pour te donner, entre septembre 2016 et septembre 2017, on était passé de 0 euros de chiffre d'affaires à l'équivalent d'un million annuel de volume d'affaires, quoi.
OK.
Donc, quand tu prenais, tu vois, en septembre, on devait faire à peu près 100 000 euros par mois de volume d'affaires, ce qui correspond grosso modo à une quinzaine de freelances qui bossent avec toi, quoi.
Ce qui est déjà conséquent dans le premier mois.
Ouais, enfin, non, ça c'était septembre 2017.
D'accord,
Donc, tu
OK.
vois, c'était un an après. Donc, en fait, en termes de chiffres, tu te dis 15 freelances, c'est pas ouf. Mais en même temps, en fait, c'était 15 freelances qui, là, étaient passés par notre process d'acquisition, par notre process de qualification, qui était dans le produit, avec des clients qui étaient dans le produit. Et donc, tu vois, on faisait 100 000 euros de volume d'affaires, on prend 15%, donc on gagnait 15 000 euros. Et donc, on avait quand même des revenus assez sympas, on gagnait 15 000, et puis, bah, on dépensait pas grand-chose parce que on avait, nous, pas de rémunération, on était au chômage tous les trois, on avait des premiers salariés, mais on était à l'équilibre, quoi.
Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes allé chercher cette première levée de 2 millions avec Kima et Autium, c'était accélérer le développement de la boîte en France et aussi un peu stimuler votre communauté, la créer, la stimuler, enfin la développer à travers des events, des projets. Raconte-moi un peu tout ça.
Ouais, en fait, la levée, pourquoi? Parce que, alors, très sincèrement, parce que oui, on voulait absolument accélérer. Enfin, on savait que sur cette partie Manage Marketplace, on avait craqué un truc. On savait que nos clients, le fait qu'on soit spécialisé, ça leur plaisait davantage. On savait qu'honnêtement, on pouvait passer devant sur la partie tech data qui est la nôtre. On pouvait passer devant nos concurrents plateformes comme Malte, etc. Et passer devant aussi pas mal des CS2I. Et puis, on avait vraiment besoin d'aller plus vite, quoi. En fait, c'est cette idée de vitesse parce que c'est un marché. Le timing était parfait. En fait, se lancer en 2016, c'est parfait. Tous les grands groupes à ce moment-là ont conscience que bah, leurs fournisseurs traditionnels, ils sous-traitent beaucoup à des freelances. Donc, autant en fait référencer et travailler avec des plateformes. Donc, le timing est parfait, mais il y a de la concurrence et il faut aller très vite. Donc, en fait, on lève en 2017 parce que justement, on se dit, mais c'est génial, ça marche. On a des clients, on a des freelances, on répond à un problème, mais à ce rythme-là, il va nous falloir 10 ans pour être numéro 1 en France et ce n'est pas possible. Et donc, j'en parle avec The Family et puis, en fait, bah, ils nous disent, OK, vous avez des belles métriques, c'est une bonne raison de lever. Parce que The Family, tout le monde pense que The Family encourage les entrepreneurs à lever, c'est faux. Très franchement, nous, ils nous ont toujours dit, écoutez, les gars, tant que vous pouvez bootstrapper, être rentable, faites-le. Et à un moment, si vraiment vous avez besoin de lever, on en discutera. Et donc, quand j'en ai parlé avec eux, ils m'ont pas mal challengé pour voir si on avait vraiment besoin de lever des fonds. Et puis, on s'est dit, OK, pour accélérer. Donc, ils m'ont connecté, en fait, ils m'ont connecté à deux personnes. Ils m'ont connecté à Bruno Raillard, qui, à ce moment-là, travaillait chez Autium, et à Jean de La Roche-Brochard chez Kima. Enfin, en fait, on s'est adoré. Moi, j'ai vraiment rencontré deux personnes fantastiques, Jean et Bruno. Ils ont adoré le projet, et puis on a levé. En une semaine, c'était fait, quoi. Ça s'est fait super, super vite.
Okay.
On a levé 2 millions en une semaine, quoi.
Ok, et donc en fait, tout le monde a validé le besoin d'aller beaucoup plus vite sur le marché pour dépasser un peu tout le monde et prendre pas de l'avance, mais il y avait vraiment ce besoin d'avoir un gros coup de pied aux fesses pour pousser la boîte. Et
Ouais.
tout le monde a validé ça et ça s'est fait rapidement. Chose
Ouais,
rare ou
exactement.
pas, je ne sais pas. Enfin, je pense que tu as.
Bah, je pense que en fait, ce qui est sûr, c'est que le contexte de marché faisait que, enfin, tu sais, entre 2000, enfin, quand tu regardes entre 2017 et aujourd'hui, en tout cas avant le corona, tu vois, enfin, il y avait quand même une énorme frénésie sur le marché de l'investissement. C'était beaucoup plus facile de lever entre 2017 et 2020
Bah, ça a
qu'entre
continué, hein.
2010 et 2017. Ouais, c'est grave. Donc, je sais qu'en fait, il y a déjà un truc qui est que le marché était comme ça. Après, nous, ce qui est bien, c'est que, bah, en fait, notre problème était bien posé, notre solution était là, notre proto était live, on avait une super équipe, tu vois, de fondateurs. En plus, on avait trouvé notre CTO, on avait des premiers chiffres, on avait des beaux clients. Et en fait, bah, ce qu'ils ont fait, c'est que bon, on s'est parlé, ils sont venus le lendemain nous voir. On n'avait pas de bureau, on bossait dans notre appart, on avait une sorte d'appart-bureau. Ils sont venus nous le lendemain nous voir au bureau, pendant quasiment une journée, pour faire une sorte d'audit. Ensuite, ils ont appelé des clients le troisième jour pour voir si les clients, enfin, ce que les clients en pensaient. Ils ont appelé des freelances. Et puis le quatrième jour, donc en gros le jeudi, bah, ils nous faisaient une proposition. On l'a un peu négocié. Et puis le vendredi, on signait. Donc, ouais, ça s'est fait super vite
Plutôt.
parce que je pense que toutes les planètes étaient alignées, quoi.
Ok. Et donc pour faire très très vite, tu vas pouvoir me dire la date. Il y a une deuxième levée de 11 millions, mais là c'est pour aller chercher l'Europe. On passe très vite dessus. C'est pour aller chercher l'Europe, Allemagne, Royaume-Uni. Dis-moi pourquoi. Je sais que tu l'as déjà dit. Remets-nous un peu dans le
Ouais.
contexte.
Ouais, en fait, donc on lève 2 millions en 2017 et puis en 2018, enfin en gros entre 2017 et 2018, bah là on s'excite, on recrute une dizaine de personnes, ça cartonne en France et en fait, ouais, on se dit bah, vas-y, il faut qu'on parte encore plus vite, plus loin. Donc on pense beaucoup à l'international. Donc en fait, on a levé 11 millions, on a pris un peu plus d'ailleurs, on a pris 14 millions parce qu'on a pris aussi un peu avec la BPI, de la dette, etc. Donc en tout en cash, on a eu 14 millions en 2018, à l'été 2018,
Ok, je
donc
pensais que
deux
c'était
ans
compté
après la
dedans.
création.
Ok.
Non, en fait, on a pris 11 millions d'equity et après, on a pris de la dette.
Ok.
Et en fait, et on a un investisseur américain, un Français basé à New York, qui s'appelle Fabrice Grinda, qui nous a rejoint aussi. Donc, en tout, on a pris 14 millions. En vrai, avec l'objectif, deux objectifs, frapper très fort en France pour être numéro un sur l'informatique, sur les freelance IT en France, donc les freelance tech en France. Et puis, deuxième, partir à l'international. Finalement, on n'en a fait que un parce que l'international, en fait, tu te dis que c'est ultra facile, en fait, c'est un bordel. Moi, j'ai beaucoup de potes entrepreneurs qui se sont pris les pieds dans le tapis, qui sont revenus de l'international. Et en fait, le marché français, il fait 40 milliards. Donc, en fait, tu vois, tant que tu fais pas 1 milliard en France, pour moi, il faut pas aller à l'international.
Ça vaut pas le coup
On
d'aller
s'est
prendre le
concentré.
risque.
En fait, j'y ai cru longtemps et je pense qu'il y avait aussi un peu de vanité de se dire ça peut être trop cool, tu vois, d'être le CEO d'une boîte internationale, de faire des allers-retours entre Londres, Paris, Berlin et tout. Ouais, en fait, je suis vachement revenu là-dessus depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, où en fait, je me suis dit, mais c'est une belle connerie. Le marché fait 40 milliards en France. En fait, tant que notre modèle n'est pas capable de faire, peut-être pas 1 milliard, mais tu vois, 100, 200, 300 millions en France, ça ne sert à rien d'aller se défocus. Donc là, on veut vraiment rester en France, on va ouvrir la province, etc. et mettre tous ces capitaux pour. Aujourd'hui, on est le numéro un. Quand tu regardes les chiffres, on est le numéro un en France sur le freelance tech. Donc ça, c'est cool. Maintenant, ça, c'est face à nos concurrents plateformes. Il faut être numéro un aussi face au SS2I. Là, c'est plus complexe. Donc là, on déploie tous nos capitaux pour ouvrir en province, continuer à muscler Paris et faire, tu vois, au moins 100 millions en France, quoi.
Donc en fait, vous avez pris du recul parce qu'en vrai, il y avait une belle carotte quand même en Allemagne, etc., où tu avais déjà dit que par rapport au statut et par rapport
Grave.
à la législation là-bas, c'était encore plus facile pour les indépendants. Donc pour vous, pouvait y avoir en fait un intérêt immense d'y aller. Mais vous avez quand
Ouais,
même,
ouais, ouais.
alors je sais pas, je pense que c'est sûrement les chiffres qui ont dû parler, mais vous n'avez pas pris les pieds dans le plat là-bas, vous n'êtes pas tombé dans le piège, si j'ai envie de dire.
Ouais, en fait, enfin, c'est assez frustrant parce que, en gros, en fait, on a fait ce qu'on appelle une crise de management. Ça, c'est aussi très lié parce que, en fait, il y a un moment où il y a cette grande phrase d'avoir les yeux plus gros que le ventre, mais tu vois, idéalement, moi, j'aurais trop aimé cartonner en France, faire 100 millions et puis ouvrir tout de suite l'Allemagne et faire 100 millions là-bas. Maintenant, c'est quand même difficile d'aller aussi vite. Et en fait, ce qu'on appelle une crise de management, c'est qu'en gros, on a levé ces 14 millions en mi-2018. Enfin, on est 15 dans l'équipe et le plus vieux a 28 ans, quoi. Et on a pas d'expérience, mine de rien, tu vois. Donc, en fait, on a galéré le deuxième semestre 2018. On en a un peu chié parce que justement, on est passé de 15 à 60, un peu moins à 50 en 6 mois. Et on n'avait pas du tout structuré l'entreprise. Et donc, en 2019, dès janvier, en gros, en fait, fin 2018, je commence à bosser sur le recrutement de nos directeurs, directrices. Et puis, ils nous rejoignent dès janvier 2019. Et on en reparlera. Mais là, on a recruté notre directeur général, Eric, qui a le double de mon âge, qui a 56 ans, qui est un homme, mais genre incroyable. Enfin, personnellement, déjà, humainement, c'est un homme que j'admire et que j'aime énormément. Et en plus, professionnellement, c'est un mec qui a passé 20 ans aux États-Unis, plus d'une dizaine d'années dans la vallée. Et son métier, c'est d'organiser une entreprise et de la faire passer à l'échelle. Et donc, j'ai recruté notre directeur général, notre directrice financière, notre DRH, notre directeur produit. Donc, grosso modo, 2019, on a créé cette équipe de directeurs. Et d'ailleurs, ça a payé parce que on a triplé nos revenus entre 2019 là, et 2020, grâce à eux aussi. Donc, pour te répondre, ouais, je pense qu'on a pris du recul. On s'est refocus sur le marché français parce qu'honnêtement, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'abord faire 100 millions en France avant de te disperser, et aussi parce qu'on n'avait pas encore les directeurs, directrices et la seniorité nécessaire pour gérer l'Allemagne et la France.
Donc, ce que tu dis et ce qui est vrai, c'est que tu as beau avoir une croissance immense sur ton marché national, si tu n'es pas structuré, si tu n'es pas prêt pour ça en interne, avant d'aller à l'étranger, il y a moyen de se faire démonter, quoi.
Bah ouais, en fait, parce que tu vois, ouvrir l'Allemagne, ça veut dire que je serais allé à Bâle en Allemagne, que des gens de la France seraient allés en Allemagne, qu'on aurait fait gérer à nos équipes produits, un produit français, un produit allemand, qu'on aurait fait gérer à nos opérations le droit allemand, le droit français. Enfin, tu vois, c'est un défocus gigantesque. Donc, ouais, ce qui est sûr, c'est que pour moi, en fait, lancer un pays, c'est dans la décision, bien sûr, tes résultats de ton premier pays et en même temps ta capacité en termes d'organisation à aller gérer. L'ouverture et l'exploitation d'un deuxième pays. Et donc, nous, on avait les résultats sur le premier pays, mais pas la capacité en termes d'organisation et d'équipe pour gérer le lancement international, quoi.
Ok, bon bah écoute, parfait, je pense qu'on a hyper bien compris d'où vient Comet, en tout cas. Maintenant, alors, tu as aussi parlé de l'équipe de 15, pas au début, mais vers 2017 et de 50, à peu près jusqu'à 50-60. Maintenant, on reparlera de l'équipe juste après. Maintenant, on va vraiment pouvoir parler de Comet, comment ça s'exécute aujourd'hui, avril 2020, 15 avril 2020, parle-moi de ce système de qualification qui va permettre de déterminer les compétences de chaque freelance dans la communauté pour les proposer dans son entreprise. Comment ça se passe, un peu cet algo de matching, savoir-faire, savoir-être, le process de rendez-vous avec l'entreprise, de contrat, comment vous vous rémunérez là-dedans. Donc, ça fait entrer le business model. Vraiment, parle-moi en fait de l'activité de Comet concrètement.
Ok, alors en fait, là aussi c'est assez simple. On a en gros, c'est comme si on avait trois boîtes, pour faire simple. C'est que, imaginez qu'on ait trois startups. En fait, on a trois produits. On en a un pour les freelances, un pour les clients et un pour nos opérations, donc pour nos commerciaux. On a une application freelancer où là, en fait, aujourd'hui, deux tiers de l'acquisition, c'est plutôt du parrainage. Donc, on fait de l'acquisition aussi sur LinkedIn, grosso modo, sur GitHub, etc. Un peu online, mais il y a pas mal de parrainage. Et en fait, donc on fait l'acquisition. Derrière le freelance, bon, il est sur le produit, il peut remplir son profil, mettre ses dispos, mais il va surtout passer ce qu'on appelle la qualification, où en gros, là, on a plein d'étapes, mais je vais la simplifier en une. Ce qui est le plus important ici, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle du peer-to-peer interview. Alors, c'est un terme anglais un peu barbare, surtout avec mon accent. Mais en gros, en fait, on permet aux freelance Comet, donc aux freelance qui ont déjà bossé avec nous, qui sont déjà dans la communauté, en fait, on les paye pour faire passer des entretiens aux nouveaux freelance. Donc, si tu t'inscris toi comme développeur sur la technologie, je sais pas, le JavaScript, tu es un développeur front-end JavaScript, en fait, tu vas passer 1 heure et demie comme un Zoom ou un Skype avec un développeur front JavaScript qui a déjà bossé avec Comet et qui a eu des bonnes notes et qui va venir en fait te challenger sur le développement front et sur JavaScript en particulier. Donc ça, c'est pour la partie freelancer. Pour la partie client, c'est assez simple aussi. C'est que, en gros, on a un produit qui permet aux achats, à la finance, bah, de monitorer tout ce qui se passe et surtout derrière, à tous les chefs de projet, de déposer des missions directement dans le produit. Donc de dire, je cherche un freelance avec telle compétence pour bosser à Paris pendant 6 mois, quoi.
Ok, et outre le fait que vous soyez spécialisé tech, alors on va prendre point par point. Pour un freelance, quels sont les avantages de passer par Comet et pas par Malte, par exemple?
Pour être honnête, en fait, tu vas dire que c'est bizarre, mais en fait, moi, pour un freelancer, la première reco que je donnerais, c'est qu'ils s'inscrivent partout. Parce que, en fait, la mission de Comet, nous, le fait qu'on se lève chaque matin, c'est que, tu vois, être freelance, c'est génial, mais si tu n'as pas de revenus, enfin, tu flippes. Si tu n'as pas de mission, tu n'as pas de revenus, en fait. Tu as une sorte d'épée de Damoclès sur la tête qui est un peu flippante. Et donc, en gros, notre mission, c'est d'apporter des revenus aux gens. Et pour ça, on se bat tous les jours pour que ça soit Comet, notre produit, qui fasse ce job-là. Mais en fait, on encourage nos freelances à s'inscrire sur les autres plateformes. C'est trop bizarre, mais c'est vrai. Donc, on leur dit, allez sur Toptal, allez sur Malte, allez sur Upwork, allez sur un maximum de plateformes parce que notre objectif numéro un, c'est que les freelances se sentent backés, se sentent heureux, entre guillemets, dans leur vie de freelance. Et ça passe pas que, mais ça passe par le fait d'avoir de l'argent. Donc, tu vois, on n'a aucune exclusivité, on n'oblige pas les freelancers à pas s'inscrire. Et puis, moi, je suis très fier d'avoir des concurrents, ça fait un peu suceur, mais c'est vrai. Je suis très fier d'avoir des concurrents comme Malte, comme Upwork, comme Toptal, etc. Parce que c'est des belles boîtes qui ont des belles missions et qui, je pense, font du bien. Après, nous, on a des caractéristiques chez Comet qui, justement, je pense, apportent plus que des missions. Tu vois, en fait, le fait d'être spécialisé, on fait des projets open source avec la communauté toutes les semaines, on fait des meet-ups, on écrit du contenu ensemble, on a un Slack pour justement que les gens puissent s'entraider en fonction de leur technologie, de leur métier. Donc, en fait, si tu viens chercher des missions, va sur toutes les plateformes. Si tu veux aller chercher une forme de collègue, une forme de mentorat, on a un programme qui s'appelle Comet Mentor. Si tu veux chercher aussi, tu vois, quand tu es freelance, tu peux te sentir sans équipe, tu peux te sentir sans collègues, etc. Et donc, ce qui est cool avec Comet, c'est qu'on peut te donner en même temps des projets open source, des articles à écrire avec nous, etc. Donc, c'est plus cette community management qu'on va aller donner. Et après, en fait, on a été les premiers à apporter des services annexes comme le fait que, enfin, la facturage, par exemple, quand tu es freelance, qui est un peu barbant quand tu travailles avec un grand groupe, tout seul, c'est que si tu bosses en avril, tu vas être payé en juin ou en juillet. Et ça, c'est un peu chiant, ça te fait des décalages de trésorerie. Nous, dès le premier jour, on a fait en sorte de payer les freelances en fin de mois. Donc, on les payait en fait fin avril et puis derrière, les clients nous payaient en juin. Bon, ça, maintenant, tout le monde le fait. Donc, tu vois, c'est plus très discriminant, enfin, différenciant, pardon. Mais donc, pour te répondre de manière simple, je pense que ce qui nous différencie vraiment, et donc pour les freelancers, être chez Comet, c'est surtout rejoindre la communauté et toutes les activités qui vont autour. Maintenant, les 4-5 grandes plateformes du marché, je pense qu'il faut y être présent aussi pour maximiser ses chances d'avoir des missions, quoi.
Et puis c'est tout à fait normal, dans tous les cas. Il n'y a pas, comme tu l'as très bien dit, il n'y a pas d'exclusivité. C'est tout à fait normal de mettre pour eux toutes leurs chances de leur côté, d'être aussi là-bas.
Ouais, parce qu'ils sont super libres et tu vois, être freelance par définition, c'est d'être libre. Donc, si tu commences à mettre des trucs, des règles restrictives, c'est que tu n'as pas compris le freelancing. Et en plus de ça, en fait, c'est un marché où il y a plus d'entreprises qui cherchent des gens que de gens. Mais malheureusement, en fait, on le voit, nous, aujourd'hui, on a 10 000 freelances et on n'arrive pas à trouver des missions pour les 10 000. Mais c'est pareil pour Upwork, c'est pareil pour Malte, c'est pareil pour Toptal. En fait, il y a un problème de mission, finalement, parce qu'elles sont un peu à la main des SS2I pour l'instant. Donc, il faut aller les récupérer. Il faut que les grands groupes se disent, bah, plutôt que de donner 1% de mes missions aux plateformes de freelance, bah, je vais plutôt donner 50% parce que je vois que c'est viable, ça marche trop bien, etc. Donc, il y a un gros travail à faire avec les grands groupes pour évangéliser les plateformes et pour faire en sorte que le tuyau d'arrivée de mission, il s'ouvre vraiment. Donc, c'est pour ça que ouais, j'encourage les freelances à être un peu partout parce que c'est leur liberté et parce que ça maximise leurs chances, quoi.
Et alors, côté entreprise, pourquoi elles vont venir travailler avec Comet? Pourquoi elles vont venir dénicher leurs talents, leurs freelances sur Comet? Et surtout, quelles sont les offres pour eux? Moi, je vois sur ton site, il y a l'offre Start, il y a l'offre Entreprise, il y a aussi Comet Fleet, Comet Connect. Ça,
Ouais.
c'est pour différents besoins. Alors, parle-moi de ces différents, entre guillemets, tarifs, différentes offres, et surtout en tout ce qui est rapidité, process de recrutement, matching, quels sont les avantages pour les boîtes?
C'est là où franchement on se différencie vraiment, c'est côté, c'est l'expérience client. En fait, on a, pour faire simple, trois offres. On a une offre qu'on appelle, notre plus grande offre s'appelle Comet Boost. C'est ce qu'on appelle dans le vocabulaire un peu technique de l'assistance technique ou de la régie. C'est un peu comme de l'intérim, grosso modo, mais avec des freelancers. C'est que toi, en tant que client, tu as besoin d'un développeur pendant 6 mois, donc tu vas acheter ce qu'on appelle des jours hommes. Tu vas acheter 6 mois d'un développeur pour venir bosser avec toi, comme tu pourrais le faire avec un intérimaire. Et donc, ça, en fait, cette offre-là, Comet Boost, on prend une commission de 15%. Donc, c'est une quantité plutôt grande parce que c'est assez facile à faire. Et on prend 15%, donc une commission qui est, pour être honnête, la plus basse du marché. Quasiment, quand on regarde vraiment dans le détail les offres de nos concurrents, on est parmi les moins chers. Et
15%,
on est beaucoup.
excuse-moi, 15% sur le taux journalier moyen du freelance sur le TJM.
Ouais, en fait, on ne prend rien en freelance, on prend exclusivement côté entreprise. Donc, si tu es un freelance et que tu te factures 500 euros la journée, on va te donner ces 500 euros, mais on va faire payer au client 575, donc 15% en plus. Et nous, on va prendre les 75 et on va te reverser les 500. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle Comet Boost. Et ça, pour le client, ce qui est génial, c'est que on est capable de répondre en moins d'une heure. Ça veut dire que chez nos concurrents, tu vas vraiment être plutôt 2 3 semaines avec une SS2I ou avec même un Malte, etc. Nous, ça prend moins d'une heure. Tu viens sur Comet aujourd'hui, tu déposes ta mission en disant « Je cherche un développeur JavaScript à Paris pour 6 mois à tel prix. » Nous, dans une heure, on t'a proposé 3 freelances qui correspondent, qui sont disponibles, qualifiées, au bon prix. Donc ça, c'est notre première offre. Ça représente à peu près 70% de nos revenus. Et ensuite, on a lancé il y a 6 mois, deux autres offres. Une offre qu'on appelle Comet Connect. qui en fait correspond à tous nos clients. Tous nos clients nous ont dit, c'est génial, quand je cherche quelqu'un, je bosse avec vous, mais j'ai aussi moi des freelances avec qui j'ai déjà bossé ou des freelances avec, que je connais et j'aimerais bosser avec eux, mais j'aimerais qu'ils passent avec votre service Comet parce que sinon, je vais devoir référencer, donc mettre dans mes outils. Imaginons que je bosse avec 100 freelances. Si je les mets dans mes outils un par un, je vais avoir 100 RIB, 100 virements à faire, 100 cabis à récupérer, c'est le bordel. Est-ce que je peux tout vous filer, Comet, et vous, vous me donnez juste un RIB et un virement? Et donc, c'est ce qu'on appelle du portage administratif. Donc là, on prend une toute petite commission de 5% parce qu'en fait, finalement, c'est le client qui apporte la mission, il apporte le freelance. Nous, on fait juste le pont juridique, financier et administratif au milieu via notre plateforme. Donc ça, c'est Comet Connect, qui représente à peu près 20% de nos revenus. Et ensuite, on a une offre qui s'appelle Comet Fleet, où là, en fait, c'est nos clients se sont aussi dit, en fait, les gars, plutôt que d'aller prendre un développeur, un data, un designer, un product et de faire moi-même mon application, imaginons que j'ai envie de faire une application iPhone, plutôt que de faire l'application moi-même avec des freelances, est-ce que je peux vous demander, vous, Comet, de créer une équipe de freelance et de shipper l'application vous-même? Donc là, je n'achète pas du temps de travail, je vous achète le résultat. Donc imaginons que je sois Coca-Cola, je veux faire une application mobile pour le 30 juin qui fasse telle spécificité. En fait, Comet, comme une agence web, en fait, Comet, je vous commande
D'accord.
cette application. Et donc, nous, Comet, on va créer une équipe avec le product manager, le designer, le développeur, le data scientist ou le data engineer. Et on va créer l'application pour le client et lui vendre le produit fini.
Donc, est-ce qu'ils, eux, ils te donnent un cahier des charges, un budget et une deadline, et après, vous faites le boulot?
Exactement. Et nous, on crée une équipe de freelance qui va faire ce taf-là et on est engagé au résultat. En fait, on crée des équipes. En fait, c'est comme si on créait des agences web éphémères, tu vois. On crée des
Complètement.
centaines de petites agences web qui vont durer 3 mois ou 6, 9 mois. C'est un peu comme au cinéma. En fait, on appelle ça d'ailleurs, il y a un super papier de Stanford qui reprend cette idée-là. On appelle ça les Flash Teams. En fait, l'idée, c'est qu'ils se sont posé la question à Stanford. Au cinéma, ce qui est dingue, c'est qu'on crée des chefs-d'œuvre, mais sans avoir d'entreprise. Parce que tu as un scénario qui tombe. En fait, en quelques semaines, tu vas trouver les acteurs, le maquillage, la lumière, etc. Tu vas créer ton équipe, on va shipper le film, et après, chacun reprend sa vie. Et donc, ils se sont posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça dans le digital? Et justement, nous, c'est ce qu'on fait. C'est un peu comme un studio de cinéma. C'est que nos clients nous donnent un cahier des charges, un budget, une date. Nous, on crée l'équipe, on ship l'application. Et après, les freelances reprennent leur vie de leur côté, quoi.
Ok, écoute, franchement, hyper clair. Et tu vois, moi, j'avais même pas en tête cette chose d'agence web éphémère, enfin, pas agence web, mais tu as compris, éphémère
Ouais.
pour des boîtes qui te mandatent, en fait, concrètement des projets. Et ça, franchement,
Exactement.
ça a l'air puissant. En tout cas, quand tu as une boîte et que tu n'as
Ouais,
même pas
grave.
envie d'internaliser ça et que tu n'as pas envie de te prendre la tête de recruter, etc., tu externalises tout ça. Et quand c'est bien fait, ça fait plaisir. Alors, pour tout ça,
Ouais.
aujourd'hui, en avril 2020, vous êtes combien? Comment ça se passe? Est-ce que tout le monde travaille en remote? Est-ce que tout le monde est en CDI? C'est quoi, si tu veux, un peu les cultures, les valeurs de Comet? Où sont les bureaux? Laisse-moi un peu présenter, excuse-moi, présente-moi un peu le Comet physique.
Alors écoute, nous, notre siège, il est à Paris, on est dans le 11e, on est rue Popincourt dans le 11e, on a à peu près 500 mètres carrés, on est une soixantaine de personnes dans l'équipe à date, un peu plus de 70. En fait, ce qu'on fait, donc pour ça, pour te donner, on est remote dès le premier jour, ce qui veut dire que le télétravail, c'est un truc qu'on kiffe dès le premier jour de la boîte. Donc en fait, sur l'équipe, on a 50% qui travaillent à distance, mais à temps plein. Donc, on a des gens à Bastia, à Biarritz, à Lyon, à Bruxelles, à Londres, etc. Et donc, c'est grosso modo surtout nos designers, nos développeurs, nos product managers, parce que nos commerciaux sont quand même beaucoup à Paris. Mais on a 50% de l'équipe qui travaille en remote. Par contre, on leur demande de venir au bureau 3 jours tous les mois, pardon. Donc, ils viennent 2 nuits, 3 jours et 2 nuits tous les mois. Et c'est là où on fait la teuf ensemble, on fait des dîners. Et c'est là aussi où, en fait, on prend du temps pour faire un bilan sur le mois d'avant, qu'on met à jour nos plans, nos roadmaps, etc. Donc, ça, c'est un truc qui a trop bien marché chez nous. C'est que, en fait, on adore le remote. Et tu vois, là, avec la crise, avec le Covid et tout ce bordel, en fait, ce qui est bien, c'est que, nous, une semaine avant le confinement, on sentait que ça allait un peu partir en live. Donc, on a fermé nos bureaux de rue Popincourt. Donc là, en avril 2020, les bureaux le siège est fermé et toute l'entreprise est en remote. Mais comme on l'a toujours fait, en fait, on a les super outils, on a tous les process, enfin, ça marche trop bien. Nous, ça n'a rien changé dans notre day-to-day parce qu'on avait déjà 50% de l'équipe en remote. Pour te donner, donc, on a, là, quand je te dis 70, c'est des salariés. On a aussi, bien sûr, des freelances avec qui on bosse. On a pas mal de freelances en créa, en marketing, en content, même en R&D, donc sur la partie dev, data, etc. On en a une quinzaine qui bossent avec nous. Et le gros de l'équipe aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en interne la R&D. Donc, c'est justement la plus grosse équipe, c'est l'engineering. Donc, c'est les développeurs. Ils sont une vingtaine de personnes. Ensuite, on a une équipe produit. Ils sont cinq personnes. Donc, les product managers, product designers. Ensuite, on a une équipe data. Ils sont cinq personnes aussi. Ensuite, on a donc, enfin, toute la partie ops, qui est ce qu'on appelle la communauté. Est inclus dans la R&D chez nous, donc ceux qui s'occupent de l'acquisition, de la qualification et de l'engagement des freelances. Donc tout ça, c'est grosso modo 60% de l'équipe. Ensuite, on a 20%, même un peu plus, 30% de l'équipe qui sont nos commerciaux. Donc là, nos commerciaux, c'est exclusivement ce qu'on appelle des éleveurs. En sales, on a des chasseurs et des éleveurs. En fait, les chasseurs vont chercher des nouveaux clients et les éleveurs prennent un client. Ils vont passer de 1 euro de chiffre d'affaires à 1 million de chiffre d'affaires avec
Faire un
ce
peu
client
d'upsell,
donné.
quoi.
Exactement. Nous, on n'a que des gens qui font de l'upsell. On n'a pas de chasseurs. Le seul qui chasse, entre guillemets, c'est moi. C'est l'un de mes gros jobs. C'est que moi, je vais chercher les nouveaux référencements. Et en fait, je viens les donner à nos account managers qui, eux, sont en charge d'un ou deux clients et vont développer et vont faire de l'upsell. Donc, nos commerciaux, c'est exclusivement des éleveurs. Et ensuite, on a une super équipe people de trois personnes qui s'occupent, bah, du recrutement, de l'onboarding et de l'engagement de nos salariés. Et on a une équipe financière aussi de trois personnes qui, là, en fait, assure bah, la finance corporate, donc notre PNL, nos résultats, notre reporting, et qui assure aussi toute la facturation des missions.
Eh bien, écoute, hyper clair et effectivement, maintenant on voit que c'est une boîte hyper structurée.
Ouais, franchement, on a la chance d'avoir un COMEX. En fait, ça fait un peu grand groupe, mais on a notre comité exécutif, donc une sorte de comité de direction, où on a en fait bah, Eric, qui est le numéro 2 de la boîte, qui est notre directeur général, qui est un peu le chef d'orchestre de toutes nos opérations. Donc, au day-to-day, c'est lui le boss. Donc, c'est notre COO. Ensuite, on a Elodie, qui est notre CFO. On a Virgile, qui est notre DRH. Et ils ont tous des parcours franchement impressionnants. Ils ont une quarantaine d'années en moyenne. Ils viennent soit des États-Unis, soit d'Angleterre, soit de France, mais ils ont bossé dans des boîtes, dans ce qu'on appelle des scale-up, donc chez Criteo, ils ont bossé chez Google, etc. Ensuite, on a aussi une ligne de management avec notre directeur produit qui vient de chez Mano Mano. Enfin bref, on a réussi à
Il y a de la
créer une
compétence, il y
super
a de
équipe de
l'expérience.
direction. Ouais, c'est vraiment génial parce que, tu vois, là, j'ai 28 ans et de bosser avec des hommes et des femmes qui ont le double de mon expérience ou qui ont, tu vois, accompli des choses incroyables dans leur vie, bah moi, c'est, enfin, je les admire vraiment de dingue au quotidien. J'apprends à leur côté énormément. Et puis, moi, je me suis recentré sur les endroits où j'étais vraiment le meilleur et ce que je préférais, ça veut dire bah, être avec l'équipe, c'est très important, être avec les candidats et l'équipe au quotidien, être avec les clients. Donc, je vois des clients et je parle avec des clients tous les jours, je parle avec l'équipe tous les jours et être avec des investisseurs. C'est aussi l'un de mes grands boulots. Donc, des nouveaux, aller chercher des nouveaux ou s'occuper, bien sûr, des existants. Et puis, enfin, je fais ce qu'on appelle aussi le chairman. Donc, en gros, je pilote le board qui est notre comité de surveillance, grosso modo, avec nos deux gros investisseurs et nos directeurs, quoi.
Ok, bah écoute, hyper clair. On a compris, il y a un peu de sales, il y a surtout de l'upsell. Mais aujourd'hui, c'est quoi vos canaux de, pas de distrib, mais un peu de communication, beaucoup sur les réseaux, pas du tout, beaucoup de bouche à oreille, je pense. Dis-moi un peu aujourd'hui, à part notoriété, bouche à oreille et recommandations, quels vont être vos, du referral, quels vont être vos canaux d'acquisition?
Pour les clients, en fait, ça fait bizarre parce que les gens me critiquent un peu là-dessus en me disant que ça ne scale pas. Moi, je pense que ça scale. C'est qu'on utilise le réseau. Honnêtement, on a un réseau de dingue. En fait, on a un réseau de dingue et grâce à nos clients existants, mais aussi, en fait, on est en plein d'initiatives. Moi, je suis dans une initiative avec Bercy pour la relation entre les startups et les grands groupes. Je suis dans différents clubs d'entrepreneurs et d'exécutifs de grands groupes et je fais toutes les semaines. Bon, là, moins avec le Covid, parce que bien évidemment que ça a été décalé. Mais toutes les semaines, sinon, j'ai des événements. Et donc, le réseau marche vachement bien. On network énormément parce qu'on est dans un monde enterprise. Et tu vois, si on veut faire 1 milliard de chiffre d'affaires, il faut qu'on fasse bosser 10 000 freelances à plein temps. 10 000 freelances, grosso modo, comme on peut mettre dans des grands groupes une centaine de freelances, ça veut dire qu'il faut que tu aies 100 clients qui aient chacun 100 freelances. C'est pour ça que pour avoir 100 clients, bah, on ne fait pas de growth hacking, en fait. Pour avoir 100 clients, 100 bons clients qui consomment 100 freelance, entre guillemets, dans consommer, en fait, bah, il faut qu'on utilise le réseau pour choper les 100 clients. Ça, c'est plutôt moi qui le fais. Et puis derrière, on a nos account managers où leur métier, c'est de passer de 1 à 100 freelance par client. Pour les freelance, par contre, là, on est beaucoup plus online. On fait beaucoup de contenu. On utilise pas mal aussi pas mal LinkedIn, Stack Overflow, GitHub, où en fait, en faisant des projets open source, en créant du contenu, bah, on crée de l'intérêt de la population tech et donc qui vient s'inscrire, quoi.
Donc que ce soit online ou même toi physiquement, être au cœur de l'écosystème et parler un peu à tous ces acteurs, c'est le meilleur moyen de regrouper et de réunir le maximum de monde avec Comet autour de Comet.
Ouais, exactement, exactement. Je pense que c'est quelque chose qui est très important, c'est se donner littéralement, entièrement dans l'écosystème de tes clients, dans l'écosystème de ta communauté, pour justement être le plus présent et donc faire venir un maximum de monde.
Alors, avec l'impact Covid, on s'en doute, il y a moins de missions pour les freelances, l'activité d'un peu tout le monde dans à peu près tous les secteurs, a diminué. Pour Comet, quelle va être, la prévision d'après le confinement, quels vont être les objectifs? Donc, j'aurais pu te poser la question pour 2020, mais sachant qu'on va dire que tout va reprendre d'ici juillet, voire même septembre réellement et encore.
Ouais,
C'est
ouais,
quoi, vous, vos prévisions pour 2021? Quels sont vos objectifs? Donc, en termes de croissance, on l'a très bien compris, mais même en termes de valeur, qu'est-ce que vous voulez apporter? Où vous voulez progresser?
écoute, alors là, à très court terme, pendant le confinement, c'est vrai qu'il y a une consommation qui est en chute, hein, de la part de nos clients. Ils consomment honnêtement 2 ou 3 fois moins, donc il y a moins de missions pour les freelances. Ce qu'on fait là pour aider les freelances, parce que notre mission reste la même, c'est de leur apporter des revenus. Donc, on a beaucoup travaillé sur les aides du gouvernement. On aide les freelances via du contenu, via aussi ce qu'on appelle des office hours. Donc, on prend du temps avec chacun des freelances pour les aider à avoir accès aux aides du gouvernement et pour les éclairer là-dessus. En même temps, on en profite. Il y en a pas mal qui veulent bosser, pas forcément être rémunérés d'ailleurs, mais en fait, on en profite pour proposer des missions pro bono aux freelances. Donc, il y a plein d'associations qui ont besoin de développeurs, qui ont besoin de compétences et qui ne peuvent pas payer. Donc, on a fait des partenariats avec des très grosses assos pour proposer des missions pro bono. Ça, c'est vraiment sur, je dirais, pendant le confinement. Nous, on sait que Q2, Q3, donc nous, d'après nous, jusqu'en septembre, ça ne repartira pas. L'été, dans tous les cas, est assez calme pour nos business parce que les grands groupes sont plutôt calmes entre le 15 juillet et le 15 août, grosso modo. Donc, en fait, nous, on est assez pessimiste. Enfin, en fait, on sait que d'ici septembre, nos chiffres vont être flat, donc voire baisser un peu. Maintenant, on a fait nos prévisions. Ce qui est bien, c'est que nos missions, elles continuent à rouler. Les gens sont passés en télétravail. On a aidé beaucoup de clients à passer en télétravail avec les freelances. Donc, nos revenus, par exemple, sur mars, on fait 20% de croissance entre février et mars. Bon, entre mars et avril, on pense faire 2-3%. Mais grosso modo, on va rester sur nos revenus jusqu'à septembre. Peut-être que ça descendra un peu sur l'été, mais il n'y a pas de catastrophe. La bonne nouvelle, c'est que nous, on a encore 2 ans de trésorerie. Donc ça, c'est une super nouvelle. C'est qu'on a encore du cash devant nous. On peut voir passer la crise. Donc en fait, on a de l'argent jusqu'au printemps 2022.
Ok,
Donc
c'est
nous, en
plus
fait,
important.
ça, c'est le plus important. Donc là, sur 2020, on voulait en 2020 atteindre 40 millions de chiffres d'affaires. Malheureusement, je pense qu'on n'arrivera pas à atteindre cette croissance-là. On a fait à peu près 15 millions en 2019. Donc je pense qu'on va tourner aux alentours des 15-20 millions en 2020. En fait, on va perdre un an. Avec cette crise, vu que ça nous aura bouffé 6 mois entre mars et septembre, on pense qu'on va faire grosso modo comme 2019, voire un peu plus, voire peut-être 15-20% de plus, mais pas au-dessus. Par contre, en 2021, en fait, nous, on estime que ça commencera à repartir en septembre 2020, que ça va se confirmer entre septembre et décembre, et donc qu'on va faire un super 2021. On attend 40 millions de volume d'affaires en 2021 et 100 millions en 2022. Et on sera rentable fin 2021. Donc voilà, l'idée, c'est de se dire, bah, on va vers la rentabilité à fin 2021, et puis derrière, on ira préparer un super tour de table pour aller lever début 2022 une très grosse série B pour là, cette fois, maintenant qu'on a le management, l'équipe et les résultats, pour en 2022 partir à l'international concrètement.
Ok, bah, que ça reparte, que vous atteigniez la rentabilité, etc. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, ça a l'air bien parti.
Merci, ouais.
Et surtout que tout reprenne, que ce Covid, etc. disparaisse, que les activités, que l'économie un peu globale, même pas française, mondiale, puisse un peu repartir. Ça va faire du bien à tout le monde. Eh ben, écoute, Charles, en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose un peu sur l'entièreté, sur l'overall du podcast? Peut-être développer un point en particulier, un point qu'on n'a pas beaucoup abordé. Fais-toi plaisir.
Non, mais écoute, déjà, un grand merci, Bastien, pour ton temps et pour l'invitation. C'est très cool. Le seul message que j'aime bien passer, c'est que, en fait, moi, j'ai trouvé, enfin, je ne sais pas si Comet m'a sauvé la vie parce que je n'étais pas non plus au bord du gouffre ni en dépression à l'époque, mais en fait, j'ai trouvé grâce à Comet un peu ma voie et j'ai envie de passer ma vie à entreprendre et je trouve ça magnifique. Donc, je ne dis pas à tous d'être entrepreneurs. En tout cas, pour ceux qui se posent la question, qui ont envie d'entreprendre, il y a un point important, c'est qu'on en est un peu la preuve vivante, mais des centaines de boîtes dans le monde sont la preuve vivante qu'on n'a pas besoin de thunes, on n'a pas besoin de compétences, on n'a pas besoin d'expérience, on n'a pas besoin d'outils, on n'a pas besoin de développeurs pour se lancer. Donc, c'est plutôt, quel que soit votre projet, que ce soit de l'artisanat, que ce soit du digital, etc., si vous ressentez au plus profond de vous que vous avez envie d'entreprendre, que ça vous gratte, allez-y, parce qu'il n'y a rien à perdre, quoi. On a la chance en France d'avoir le chômage, on a la chance d'avoir des aides. Donc, c'est plutôt, vous ne posez pas de questions, allez-y. Au pire des cas, vous allez vous faire plaisir et apprendre plein de trucs et ça vous servira toujours, quoi.
Surtout Pôle emploi qui est le plus grand investisseur de France, comme tu l'as dit même toi au début. Tu vois, c'est pas du tout une honte, c'est une chance en France d'avoir ça pour soutenir.
Ça a coupé. Tu m'entends, Bastien?
Ouais, je t'entends. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends?
Ah là, c'est bon, je t'entends.
Ouais, t'inquiète pas. Je couperai, t'inquiète pas. Hein, c'est vers la fin. Okay. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit?
Non, pas à la fin.
Alors, je vais reprendre. J'ai dit qu'en France, on a la chance d'avoir Pôle emploi qui est le plus grand investisseur de France. Et ce n'est pas une honte, c'est une chance d'avoir cette chose-là qui permet d'être à la genèse de projets. Donc, comme tu l'as dit, de même commencer sans grand fonds. Et c'est une chance d'avoir ça en France. Donc, c'est encore un facteur de plus pour se lancer.
Oui, exactement. Exactement.
Comme toi au début. Eh bien, écoute, Charles, Comet.co. Pour les freelances, pour les boîtes, c'est là qu'il y a tout, c'est là qu'on retrouve tout et même tout ce qui est process par rapport au Covid, etc. Il y a tout sur votre site, j'ai tout vu. Ouais. Qu'est-ce que tu veux mettre en avant aussi pour retrouver Comet? Bon, il y a le site en main, mais est-ce que tu veux parler d'autre chose?
Non, écoute, je pense que Comet.co, c'est vraiment le hub principal. Sinon, vous pourrez trouver aussi pas mal de contenu en naviguant un peu sur les internets, pas mal de contenu sur notre Medium, en tapant Medium Comet, vous trouverez pas mal d'infos, surtout sur la culture qu'on a créée en interne, justement notre team, nos valeurs et tout, c'est assez cool. On partage beaucoup sur nos outils, nos méthodes, nos process, nos succès, nos échecs. Donc, si vous êtes entrepreneur ou que ça vous intéresse dans tous les cas, je vous encourage à lire le contenu qu'on produit, quoi.
Ok, et même toi, on peut te retrouver sur LinkedIn, Charles Thomas, il n'y a aucun problème.
Exactement.
Voilà. Bah, écoutez, merci à vous si vous avez écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager au sein de votre incubateur, à tous vos amis entrepreneurs ou pas, passionnés d'entrepreneuriat, qui ont envie de lancer des boîtes, qui sont en train de lancer des boîtes, à mettre 5 petites étoiles si vous avez aimé le podcast, à retrouver bien sûr tous les autres podcasts sur twostep.fr et un peu sur toutes les plateformes. Merci beaucoup, Charles, pour cet épisode. Franchement, hyper enrichissant, tout le temps pour moi, mais je pense aussi pour beaucoup de personnes. Ça m'a fait très plaisir. Et puis, écoute, que du bon pour Comet, pour toi, tes associés, pour toute l'équipe, surtout. Et puis, au grand plaisir de voir tout ça un peu commencer à repartir après le confinement.
Un grand merci à toi, Bastien. Et puis, super initiative. Bonne continuation à toi. Et puis, à très bientôt, j'espère.
Merci beaucoup. Au revoir à tous.
À plus.